Avez-vous déjà craint pour votre sécurité en raison du comportement d'une autre personne? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fameux 810 que certains appellent communément un interdit de contact? Afin d'en discuter, on reçoit Maître Camille Godin du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour nous expliquer c'est quoi un 810 et comment on peut en faire la demande. Bonjour Camille.
Bonjour Annick.
D'abord, qu'est-ce qu'un 810 en fait?
Oui, en fait, lorsqu'une personne a des raisons d'en craindre une autre, par exemple parce qu'elle a un comportement qui est menaçant ou harcelant, c'est possible de demander un 810. Le terme officiel, c'est un engagement de ne pas troubler l'ordre public. On appelle ça un 810 parce que c'est en fait en raison de l'article du Code criminel auquel ça fait référence. En gros, c'est une promesse qui est signée devant un juge de bien se comporter puis de respecter certaines conditions. Par exemple, ça pourrait être de ne pas communiquer avec la personne qui craint pour sa sécurité.
Ce que je comprends, c'est que si une personne se sent en danger, elle doit faire quoi pour obtenir un 810 dans le fond?
Bien, en général, la personne va devoir se rendre au poste de police qui est près de chez elle pour expliquer sa situation. C'est aussi possible d'aller directement au palais de justice pour déposer une demande. Par contre, ça se peut qu'on demande à la personne qui fait la plainte qui veut demander le 810 d'abord faire une déclaration sous serment devant un policier. Ensuite, les policiers vont faire une enquête en fait pour voir si la situation remplit les critères d'un 810. Puis, si c'est le cas, les policiers vont transmettre le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. Puis, un procureur de la Couronne va aussi analyser le dossier. Il pourrait décider de porter des accusations criminelles si c'est évident qu'un crime a été commis selon la preuve. Mais si c'est pas possible de porter des accusations criminelles, il va pouvoir demander un 810 si les conditions sont remplies. Puis, par la suite, le procureur avise le plaignant si des accusations criminelles sont portées ou si un 810 est demandé.
Fait que c'est quand même assez sérieux. Quelles sont les conditions à remplir, justement, pour le 810? Les gens se posent la question à la maison en ce moment.
Bien, en fait, il faut que le plaignant ait des motifs raisonnables de craindre qu'on lui fasse du mal, soit à lui ou à sa famille, ou qu'on brise ses biens, donc ses propriétés, ou encore qu'on diffuse ou partage une image intime de lui ou elle. Autrement dit, il faut que le procureur de la Couronne croit que le plaignant a des raisons d'avoir peur. Un exemple qu'on voit fréquemment, c'est le cas d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe qui envoie des textos menaçants ou qui a des propos inquiétants envers l'autre. Évidemment, si la preuve puis les faits permettent de porter des accusations criminelles, par exemple des accusations d'harcèlement criminel ou de menaces de mort, le procureur de la Couronne va pouvoir choisir cette option-là.
Donc, quand un procureur, Camille, demande un 810, comment ça se passe par la suite?
Si effectivement le procureur décide de demander un 810, il va rencontrer le plaignant avant l'audience, donc avant de passer devant un juge, pour lui expliquer le déroulement de cette audience-là. C'est possible qu'il demande au plaignant de témoigner pendant l'audience, entre autres si le témoignage du plaignant ou de la plaignante, c'est la seule preuve disponible. Ensuite, pendant l'audience devant un juge, le procureur va présenter la preuve qui soutient les motifs raisonnables du plaignant de craindre des blessures, des dommages à ses biens ou la diffusion d'images intimes de la part de la personne qui se voit peut-être signer un 810. Puis la preuve, ça peut être fait soit par le témoignage du plaignant, ça peut être aussi un témoin des faits qui vient témoigner, ou des documents comme des courriels, des messages textes, par exemple. Puis, par la suite, après avoir entendu la preuve, le juge décide s'il y a lieu d'ordonner le 810.
Étant donné que le 810, ça vient du code criminel, est-ce que c'est un peu comme un procès criminel? C'est-tu la même chose?
Non, pas du tout. En fait, lorsqu'un juge ordonne un 810, il reconnaît seulement que le plaignant avait raison d'avoir peur. Toutefois, la personne qui signe un 810 n'est pas reconnue coupable d'un crime, puis il n'y aura pas de casier judiciaire. Aussi, les règles de procédure sont différentes, c'est-à-dire que le fardeau de la preuve est moins élevé pour un 810 que pour un procès criminel. Il faut seulement démontrer que c'est plus probable qu'improbable que le plaignant a des motifs raisonnables de craindre l'autre personne. Puis, dans le cas d'un procès criminel, c'est une preuve, on parle d'une preuve hors de tout doute raisonnable qui doit être faite.
D'accord, je comprends. Quelles sont les conséquences d'un 810? Si un 810 est ordonné par un juge, qu'est-ce que ça donne concrètement?
Bien, en fait, la personne va devoir respecter certaines conditions selon les circonstances. Par exemple, la personne pourrait avoir l'interdiction de communiquer avec le plaignant ou sa famille, ou l'interdiction d'aller dans certains lieux ou de posséder des armes, où on voit souvent là, l'interdiction de consommer de la drogue ou de l'alcool. Le 810, là, ce qui est important de savoir, c'est que ça a une durée maximale de 12 mois. Par contre, si le plaignant a encore des craintes là, après cette année là, de 12 mois, c'est possible de demander un nouveau 810 là, en refaisant les mêmes étapes, mais il faut vraiment recommencer au départ.
On voit souvent des gens qui signent un 810 qui ne respectent pas les conditions. Alors, si tu ne respectes pas les conditions quand tu as signé un 810, il se passe quoi?
Si les conditions là, de l'engagement ne sont pas respectées, les policiers vont pouvoir intervenir, puis il y a des accusations criminelles de non-respect des conditions. On appelle ça souvent là, un bris de conditions qui pourrait être porté. Si la personne là, est reconnue coupable de non-respect des conditions, bien, elle s'expose à une peine d'emprisonnement qui peut varier de 2 ans moins un jour à 4 ans ou encore là, une amende maximale de 5 000 $.
Par curiosité, Camille, est-ce que le 810, c'est la seule façon de se protéger quand il y a des accusations criminelles, quand les accusations criminelles ne peuvent pas être portées puis qu'on craint pour sa sécurité?
Bien, c'est la façon la plus connue, là, mais il existe aussi une version civile du 810 qui s'appelle une ordonnance de protection en matière civile. Sans entrer dans les détails, c'est un peu le même principe, mais c'est une demande qui est faite au tribunal civil. La différence, entre autres, là, c'est que l'ordonnance peut être pour une durée de 3 ans au lieu d'un an, mais les conséquences du non-respect là, sont moins sévères que pour un 810. C'est-à-dire que, contrairement au 810, là, lorsque quelqu'un ne respecte pas les conditions, le plaignant doit faire une demande d'outrage au tribunal, là, comme quand quelqu'un ne respecte pas un jugement. Puis les conséquences sont moindres, là, donc on parle d'une amende quand même moindre, puis peut-être le travail communautaire ou un emprisonnement de courte durée. Là.
OK. Fait que c'est un ou l'autre, mais il me semble qu'il y en a un qui est plus préférable à l'autre. 10h16, merci Camille, c'était très intéressant. Si nos auditeurs ont des questions sur le sujet dont on vient de parler, mais sur tout autre sujet à caractère juridique.
Oui, Annick, si les auditeurs ont des questions, peu importe le domaine du droit, ils peuvent nous appeler au Centre de justice de proximité au 418-412-7722 et nos services sont toujours gratuits et confidentiels.
Merci beaucoup. Il est 10h.